Donc, vous le savez aujourd'hui, hein, je pense que ça ne vous aura pas échappé, on fête le 60e anniversaire de cette fameuse déclaration. Et donc, la question que je vais me poser à partir de l'objet sur lequel on va demander de parler, hein, la torture, c'est de savoir quels sont le sens et la portée de cette déclaration aujourd'hui. Alors, la question est particulièrement vraie pour la torture qui nous occupe. En effet, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que si la torture fait assurément l'objet d'une réprobation juridique et morale universelle, elle était en réalité beaucoup pratiquée, et quasi universellement pratiquée, et qu'elle est même au cœur d'un débat récent, particulièrement caractéristique de la pensée contemporaine, et qui vise à l'admettre sous la forme d'une exception exigée par la nécessité. Donc la question en gros que je vais me poser, c'est de savoir si la torture est justifiable. Et je vous rassure, aujourd'hui, 10 décembre, je vais vous démontrer qu'elle n'est jamais justifiable. Alors, dans cette brève introduction, tout d'abord, dans une brève introduction, je vais prendre ma casquette de juriste hein, d'abord et vous énoncer quelques textes mais que je pense que vous connaissez un peu maintenant parce que je sais que vous avez travaillé sur ces questions, mais enfin, quand même, un petit peu de répétition ne fait pas de mal. Je vais donc vous donner les principaux textes relatifs à la torture, les textes qui interdisent la torture. Et puis ensuite, je vais prendre ma casquette de militante et je vais vous donner des exemples de torture aujourd'hui pratiquées rapidement. Alors, vous le savez, le texte dont on commémore la proclamation aujourd'hui, la DUDH, comporte un article 5. Et cet article 5 nous dit que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Alors j'insiste là-dessus parce qu'on a à la fois la torture et les traitements cruels, inhumains, dégradants. Et tout à l'heure, on se demandera si ce sont les mêmes ou pas. On s'interrogera sur la définition. Alors le problème de la DUDH, vous le savez, c'est que c'est à la fois un texte de portée internationale, mais en même temps, c'est un texte à la valeur juridique faible. Je suppose qu'on vous l'a expliqué, je pourrais y revenir dans les questions si vous voulez. C'est un texte qui est davantage moral que juridique. Vous avez du coup eu tout un travail dans les sphères internationales, si vous voulez, pour aboutir à une convention, c'est-à-dire à un texte qui est contraignant. Une convention, c'est un contrat et qui donc lie les parties qui l'ont signé. Une convention sur laquelle je reviendrai, convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Donc vous retrouvez cette trilogie. Qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en 84 et qui est entré en vigueur en 87. Je vais y revenir parce que c'est elle qui définit la torture. Cette convention a mis en place un organisme qui s'appelle le Comité contre la torture et qui est entré en fonction en 1988 et qui est composé d'experts, si vous voulez, et qui est chargé de vérifier la bonne application de la convention par les États. Donc, assez simplement, en fait, le comité va enquêter dans les États concernés, il passe à tour de rôle, hein, les uns après les autres, et il dit, il distribue les bons points et les mauvais points, lui, il a fait des progrès, lui, au contraire, ça va pas, etc. Il siège à Genève. Vous avez un autre article important, qui est contraignant, celui-là, fortement contraignant, qui est notre code pénal français. Notre code pénal français, qui date de 1992, qui est entré en vigueur en 1994, comporte des articles avec lesquels je ne vais pas vous ennuyer, je vous rassure. Mais enfin, quand même, il faut savoir qu'il a notamment les articles 222-1 et suivants, qui concernent la torture, et je vous mentionne le premier, hein, 222-1. Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Pour vous donner une idée, le meurtre est puni de 30 ans de réclusion criminelle. Donc ça, c'est l'article 222-1. Il faudrait aussi parler de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, la Convention européenne des droits de l'homme, c'est un texte à la fois plus important et moins important que la Déclaration universelle. Plus important parce que lui, il est juridique et pas seulement moral. Moins important parce que son champ, c'est l'Europe. Enfin, l'Europe des droits de l'homme, hein, c'est-à-dire une cinquantaine d'États. Son article 3, donc, nous dit « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». D'accord ? Donc c'est la même idée, mais dans une sphère plus restreinte, encore une fois, l'Europe, et avec une portée juridique certaine. Et on pourrait aller plus loin, on pourrait parler de la Convention européenne pour la prévention de la torture de 1987, on pourrait parler du statut de Rome qui a créé, comme vous le savez sans doute, la Cour pénale internationale dont on parle beaucoup, et qui prohibe la torture lorsque cette torture constitue un génocide, un crime contre l'humanité ou un crime de guerre, etc. On pourrait donc se dire, bon, bah écoutez, ça va, on a un arsenal juridique extrêmement fourni, étoffé, des textes régionaux, il y a de la place devant, hein, des textes régionaux, des textes universels, des textes internes, donc un empilement si vous voulez, des textes moraux, des textes contraignants, bon, donc cela devrait aller. Cela devrait d'autant plus aller qu'il s'agit de prohiber, d'interdire une pratique qu'instinctivement tout le monde condamne. D'accord ? On peut se poser la question par exemple pour la peine de mort, mais la torture en général, tout le monde sait que bon, c'est pas bien. Et pourtant, la torture est largement pratiquée. Alors, elle est pratiquée dans différents contextes, et il faut d'emblée que je vous dise quand même de quoi je vais parler. Moi, je vais parler de la torture d'État, hein, de la torture pratiquée par les États, mais il faut quand même savoir que la torture est également pratiquée entre des individus. D'accord ? Vous avez des individus qui en torturent d'autres, et donc en France, il suffit de regarder la jurisprudence, hein, enfin les décisions rendues par les tribunaux, vous avez assez régulièrement des individus qui sont condamnés pour des actes de torture et de barbarie, ou des actes de torture ou actes de barbarie qu'ils ont commis sur d'autres individus. Bon. Mais la torture est également pratiquée en France, alors je vous rassure totalement marginalement, mais enfin quand même un peu, par exemple, dans des commissariats. D'accord ? Donc là, on tombe dans ce que j'appelle la torture d'État. Alors, en réalité, je fais référence ici à un cas qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a été jugé par la Cour européenne des droits de l'homme, qui s'appelait le cas Selmouni contre France en 1999. D'accord ? Il s'agissait en effet d'officiers de police qui avaient eu la main un peu lourde, disons, et qui, pour obtenir des aveux, avaient plus que molesté Monsieur Selmouni, qui est allé se plaindre jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme et qui avait obtenu gain de cause. La France avait donc été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Sortons des frontières de l'Hexagone, allons nous promener un peu, et là, bon, malheureusement, je pourrais vous faire une litanie qui aurait l'intérêt d'une litanie, c'est-à-dire elle vous montrerait véritablement la réalité du problème, mais elle serait un peu lassante. Alors, quelques exemples. Entre 2003 et 2007, 160 personnes qualifiées d'islamistes ont été arrêtées, accusées par le régime mauritanien de l'époque pour différents crimes d'atteinte à la sûreté de l'État ou d'actes de terrorisme. Elles ont subi ce qu'on a appelé la torture du jaguar, consistant à être pendues, les pieds accrochés à voilà, quelque chose comme ce que vous voyez ici, pendant des heures et des heures, de manière à les faire avouer. En Colombie, Amnesty International a recensé 80 cas de torture pour l'année 2007. 7 femmes ont été torturées, 45 ont été exécutées ensuite. Cela intervient dans le contexte, vous le savez, un peu compliqué de la Colombie, de la guerre, hein, entre la guérilla, les paramilitaires, les forces de sécurité, etc. En Russie, le 13 octobre 2005, il y a eu une insurrection de jeunes, armés pour la plupart, qui ont attaqué des installations gouvernementales donc russes dans la République caucasienne. Donc, qui fait partie de la Fédération de Russie. Des échanges de tirs avec des forces de l'ordre provoquent la mort de 92 insurgés, 12 civils, 36 représentants des forces de l'ordre. Dans les jours qui suivent, des centaines de personnes sont arrêtées, soupçonnées d'avoir participé aux attaques. Parmi eux, un certain Razoul Koudaev, jeune homme de 28 ans à l'époque, qui est arrêté le 23 octobre. Alors, il se trouve qu'il avait été un ancien détenu de Guantanamo. C'est pour ça que je vous donne l'exemple, parce que je reviendrai sur Guantanamo plus tard. Et il a été gravement torturé pour obtenir des aveux, etc., etc. D'accord ? Alors, la question que je me pose est pourquoi un tel fossé entre les faits et les textes ? Alors, deux éléments de réponse. D'abord, la torture est très souvent une pratique d'État, d'accord ? Et étant une pratique d'État, on retrouve toutes les difficultés liées au fait de poursuivre, d'enquêter et de condamner des crimes d'État, d'accord ? Et ce, j'insiste, alors même qu'il existe, alors c'est un petit peu compliqué donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais qu'il existe pour la torture comme pour les autres crimes très graves, une règle juridique très importante qu'on appelle la compétence universelle. Alors qu'est-ce que c'est que la compétence universelle ? Alors, grosso modo, c'est une règle qui déroge aux règles de droit international classique et qui consiste à dire qu'un État peut poursuivre des auteurs de torture sur son territoire et avec son propre droit, ses propres règles, si vous voulez, alors même qu'il n'y a aucun rapport avec entre l'infraction qui a été commise et cet État. Pour être plus clair, la France pourrait poursuivre un tortionnaire camerounais, par exemple, alors même que la victime était camerounaise, le tortionnaire est camerounais, et que les faits ont eu lieu au Cameroun. D'accord ? Il suffirait pour cela que le tortionnaire se trouve à un moment donné sur son territoire et que la France accepte de le capturer et de le juger. C'est ce qu'on appelle la règle de la compétence universelle, qui déroge au fait qu'en général, en droit pénal, en droit international, on estime qu'il faut qu'il y ait un rapport matériel entre l'auteur de l'infraction et les juridictions, si vous voulez, qui le jugent. Bon, il y a une règle de compétence universelle, mais elle est très difficile à mettre en œuvre et bon, c'est très compliqué. D'autre part, la raison pour laquelle, à mon avis, il y a un tel fossé entre les faits et les textes, c'est que, du point de vue de son contenu, la question de la torture est plus difficile qu'il n'y paraît de prime abord, et que, s'il faut la condamner absolument et universellement, il faut, pour cela, d'abord savoir de quoi on parle et quel débat de fond elle suscite. C'est ce que je vais voir donc avec vous, en deux parties. Première partie, je vais voir très rapidement l'histoire, les définitions et les finalités de la torture. Et dans une deuxième partie, je vous exposerai les grands éléments, les grandes lignes, si vous voulez, d'un débat contemporain très important sur la justification possible de la torture. Alors d'abord, si vous voulez, histoire, définition, finalité. Il faut comprendre que, sauf quand on a affaire à des psychopathes, en général, les tortionnaires ne torturent pas pour le plaisir. D'accord ? Ils torturent, souvent, comme je l'ai dit, dans le cadre d'un État, et ils torturent dans un but précis pour obtenir des aveux. D'accord ? Donc il faut comprendre que la torture, c'est un mode de preuve. Et aussi bizarre que cela puisse vous paraître, c'est un mode de preuve qui, à une certaine époque, a constitué un progrès. Je m'explique. Jusqu'en gros au XVIe siècle, pour obtenir des aveux sur une infraction passée, on recourait à des modes de preuve que l'on qualifie de formels. Et le plus connu d'entre eux, c'était l'ordalie. L'ordalie, c'est une sorte d'épreuve que l'on faisait passer au prétendu coupable et qui consistait à, par exemple, alors il y avait plusieurs types d'ordalie, l'ordalie du feu ou l'ordalie de l'eau. Donc par exemple, vous jetez quelqu'un dans un sac dans l'eau, et s'il remonte, c'est qu'il n'est pas coupable, et s'il coule, c'est qu'il est coupable. D'accord ? Ou vous faites la même chose avec le feu, vous lui faites mettre dans la main dans le feu, si elle ne crame pas, c'est qu'il n'est pas coupable, si elle crame, c'est qu'il est coupable. D'accord ? Donc je le vois à vos visages, cela vous fait sourire. Et oui, ça nous paraît complètement irrationnel, bien entendu, d'une autre époque, ça l'est. Mais enfin, il faut savoir que c'était tout à fait procéduralisé, officialisé. Enfin, c'est comme ça qu'on fonctionnait en France. Hein. Je ne vous parle pas de ce qui se passait loin de chez nous, en France. Et au XVIe siècle, on a commencé à prendre conscience du caractère très irrationnel de ces preuves dites formelles. Et on a cherché des preuves matérielles, d'accord ? Et parmi ces preuves matérielles, on s'est dit, si on torture le bonhomme, là, c'est quand même beaucoup plus tangible. On va aboutir à une vérité. Parce que, sous la torture, il va nous dire s'il a commis ce crime ou pas. D'accord ? Donc, la torture est liée à la montée en puissance d'un mode de preuve qu'aujourd'hui encore, on qualifie de reine des preuves, d'une certaine façon, qui est l'aveu. Parce qu'en général, quand... Vous savez bien que c'est faux, hein, mais c'est ce qu'on a longtemps pensé. En général, quand quelqu'un avoue quelque chose, c'est que c'est vrai. D'accord ? Donc, on est passé de l'idée d'une preuve formelle, si vous voulez, à une preuve matérielle, liée, donc, on est passé, si vous voulez, de l'irrationnel à la vérité. Et là encore, contrairement aux idées reçues qu'on peut avoir, jusqu'au XVIIIe siècle, vous avez des philosophes qui considèrent que la torture... Bon, c'est pas très bien, non pas pour une question de principe, mais plutôt parce que c'est inefficace. D'accord ? Donc pendant longtemps, la torture a été condamnée, mais parce que seulement, simplement parce qu'elle était inefficace. Je pense ici à un auteur très important qui est Beccaria, Beccaria, qui était un jeune homme, hein, parce qu'il a écrit son grand ouvrage à 26 ans en 1764, qui s'appelle « Des délits et des peines », qui est vraiment l'ouvrage majeur pour la philosophie pénale et le droit pénal jusqu'à aujourd'hui, hein, s'inspire beaucoup des principes de Beccaria, qui ne condamnait pas la torture véritablement avec beaucoup de véhémence et par principe, mais surtout, estimait-il, parce qu'elle était inefficace. Alors aujourd'hui, en quoi consiste, et j'insiste sur cette problématique de l'efficacité, vous allez voir pourquoi tout ça, c'est très important. Aujourd'hui, en quoi consiste ce mode de preuve? Et à quoi sert-il précisément? Alors, je vais me reporter ici, comme je vous l'avais promis, à l'article 1 de la Convention sur la torture. Le texte nous dit, je vous prie de m'excuser d'être un petit peu pénible, mais il faut que je lise ces textes, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, j'insiste beaucoup là-dessus, sont intentionnellement, bien entendu, on ne torture pas de façon non intentionnelle, hein. On ne torture pas par imprudence, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle qu'elle soit, donc très large, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, etc. Et le texte nous dit, ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Par exemple, le fait d'être en prison en lui-même n'est pas une torture. D'accord ? Après, les conditions de détention peuvent être une torture, mais le fait lui-même d'être en prison n'est pas une torture. Vous voyez bien que ce texte, pour des raisons d'efficacité, donne de la torture une vision large, à la fois quant à la façon de torturer, physiquement ou psychologiquement. Qu'est-ce que c'est qu'une torture psychologique ? C'est la privation de sommeil. Ne dormez pas pendant 3 jours, et vous allez voir que vous commencez à perdre complètement vos repères spatio-temporels, à avoir des hallucinations et à vous sentir vraiment très très mal. D'accord ? À partir de là, vous verrez que vous pouvez être amené à avouer n'importe quoi. Autre type de souffrance, de torture psychologique, ce qu'on appelle la privation sensorielle, c'est-à-dire mettre à quelqu'un des lunettes noires, lui boucher les oreilles de manière à ce qu'il ne ressente plus rien. Là encore, très très vite, vous devenez fou, tout simplement. La noyade par simulation, mise au goût du jour à Guantanamo, qui consiste à mettre quelqu'un sur une planche et à chaque fois qu'on veut obtenir quelque chose de lui et qu'on n'y arrive pas, à faire basculer la planche de telle façon à lui faire penser qu'on va le noyer. D'accord ? On appelle le waterboarding. Donc, torture très largement entendue, hein, physique ou morale. Torture très largement entendue également quant au but poursuivi. Obtenir des aveux ou des renseignements. J'insiste beaucoup sur l'histoire des renseignements, je vais y revenir. Intimider, faire pression, etc. En revanche, vous avez constaté que la torture dans ce texte est limitée à la torture étatique. Hein. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, et c'est très important pour la suite de mon argumentation, c'est que certains prétendent que la torture psychologique n'en est pas vraiment une. Ils utilisent même pour cela un euphémisme, on parle pas de torture, on parle de technique d'interrogation coercitive. D'accord ? quand on essaye d'obtenir des aveux ou des renseignements de la part de terroristes présumés, on ne dit pas qu'on les torture. On dit qu'on emploie des techniques d'interrogation coercitive. Vous voyez bien le procédé. Il s'agit de faire sortir ces techniques du champ des pratiques condamnables. Et cela correspond à un changement de finalité. En général, les tenants de ce type de torture prétendent par la même occasion qu'ils ne s'inscrivent pas dans la torture classique. Ils nous disent bien, ce qu'on veut, ce n'est pas obtenir des aveux sur des faits passés, des infractions passées, un crime que j'aurais commis, mais c'est obtenir des renseignements pour que ne se produisent pas d'autres crimes. D'accord ? Donc, je veux savoir si tel terroriste est sur le point de fomenter un nouvel attentat. D'accord ? Donc, vous voyez bien le changement de perspective. Ici, la torture, elle n'est pas tournée vers le passé, elle est tournée vers le présent et l'avenir. C'est une sorte de torture préventive. Les critiques de cet élargissement de la torture, de cet élargissement libéral de la torture, soutiennent à leur tour, et pour contrer cette argumentation, qu'en tout état de cause, la finalité de la torture n'est pas celle-là. La finalité de la torture, c'est l'anéantissement de la personne. L'anéantissement de la personne sans la tuer, si vous voulez. On l'anéantit sans la tuer en la réduisant au silence. Vous voyez bien là qu'on a complètement basculé d'univers. On est passé d'un univers où la torture elle a pour objet d'obtenir une parole à un univers où la torture elle a pour objet de réduire la personne au silence. Vous voyez donc à ce stade de la réflexion que, première chose, la torture peut prendre des formes diverses, outre celles que j'ai déjà mentionnées, physique, morale, etc. Il faudrait aussi ajouter torture de masse contre torture individuelle. Deuxième point, ces finalités sont également diverses et non exclusives l'une de l'autre. On peut torturer à la fois pour obtenir des aveux sur ce qui s'est passé et pour obtenir des renseignements sur ce qui va se passer et pour anéantir la personne. D'accord ? Évidemment, tout cela peut fonctionner en vase communicant. Dès lors, je pense que vous me voyez avancer, cette analyse me conduit à me demander si la torture peut, dans certains cas, être justifié. Alors, deuxième partie, donc le débat actuel sur les justifications de la torture. Alors, je m'inspire très largement, même si je le critiquerai aussi, de cet ouvrage-là, de M. Terestchenko, dont le titre est tout à fait significatif, « Du bon usage de la torture », et il y a un sous-titre, je vous rassure, « Ou comment la démocratie justifie l'injustifiable ». D'accord ? Alors, je vais d'abord essayer de poser le problème devant vous. A priori, l'histoire même récente, je pense à la guerre d'Algérie en France, l'histoire même récente devrait nous avoir prémunis contre ce genre d'interrogation. On ne devrait même plus avoir à se demander s'il peut y avoir un bon usage de la torture. La torture serait toujours, absolument et universellement inacceptable. Telle est, par exemple, la philosophie de la Convention contre la torture, dont l'article 2 dispose, je vous ai cité l'article 1 qui l'a défini, l'article 2 dispose, d'abord que tout État parti doit prendre des mesures pour empêcher que des actes de torture soient commis sur son territoire, mais surtout, c'est le deuxième point qui m'intéresse, aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoqué pour justifier la torture. D'accord ? Donc là, vous voyez bien la philosophie dans laquelle on est. On est en 1948, on a commis l'irréparable et on veut vraiment dire que rien ne peut justifier la torture. Le point 3 de cet article 2 est également intéressant. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. Vous ne pouvez pas dire « oui, c'est vrai, j'ai torturé, mais c'est parce que mon supérieur me l'avait demandé ». Vous serez condamné quand même. Et pourtant, c'est une autre histoire récente, celle du 11 septembre 2001 et de ses répercussions, la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak et le camp de Guantanamo. C'est cette histoire donc qui a revivifié une discussion qui existait déjà, il ne faut pas croire qu'elle a commencé le 11 septembre 2001, mais qui a pris un nouvel élan. Peut-on admettre une torture dite libérale ? Qu'est-ce qu'on veut dire par dite libérale ? C'est libéral au sens américain du terme, c'est-à-dire pratiquée dans un État démocratique et au terme d'un consensus politique entre les citoyens. C'est le fameux cas dit de la bombe à retardement, présenté sous diverses variantes et popularisé par des séries télévisées comme 24 heures chrono, que j'imagine que vous connaissez, mais aussi par le cinéma, qui sert à penser la question. Alors, en quoi cette hypothèse consiste-t-elle? Je pense que vous la connaissez. Consiste à dire qu'il faut imaginer que des autorités de police ont sous la main un terroriste, on va prendre un exemple plus net, un terroriste, qui sait, ou dont on pense qu'il sait, parce que vous allez voir que c'est un petit peu plus subtil, dont on pense qu'il sait qu'une bombe à retardement a été placée juste à côté, d'accord, et pour lequel, donc, il serait bien utile, à propos duquel il serait bien utile de pouvoir légitimer la torture, d'accord. Donc, si je torture cette personne, moi, autorité de police, j'ai de bonnes chances, c'est du moins ce que je pense, de savoir où cette bombe est et de donc pouvoir éviter l'attentat. D'accord ? C'est ça l'hypothèse de la bombe à retardement. Vous voyez bien qu'on n'est pas vraiment dans le cas où il s'agit de faire avouer à un terroriste ses crimes passés. Il s'agit bien de prévenir d'autres crimes. D'accord ? Donc c'est exactement le glissement dont je vous parlais. Cette hypothèse, donc ticking bomb en anglais, hein, a été théorisée par plusieurs théoriciens, donc philosophes, juristes, américains, qui, à partir de cette hypothèse, disent qu'on peut justifier la torture. Alors évidemment, ils élaborent un tout petit peu plus leur pensée, d'accord ? Alors il y a deux variantes. Il y a une variante soft et il y a une variante un petit peu plus dure. La variante soft est celle d'un philosophe américain très connu qui s'appelle Michael Walzer, W-A-L-Z-E-R, qui dit, dans cette hypothèse, il faut admettre que les autorités de police puissent torturer le présumé terroriste. D'accord ? Simplement, il faut aussi admettre, sinon on tombe dans un état de non-droit et on contredirait nos principes démocratiques, il faut aussi admettre que le policier qui fait cela sera renvoyé à sa responsabilité personnelle. Donc, théoriquement, on admet qu'il puisse torturer, enfin théoriquement et pratiquement, hein, mais Michael Walzer ne dit rien, si vous voulez, des conséquences, et il dit que ce peut très bien que ce policier soit attrait devant les tribunaux et ensuite condamné. Une version un tout petit peu plus hard, si vous voulez, est présentée par quelqu'un de très connu aux États-Unis, pas du tout chez nous, mais de très connu aux États-Unis, parce que il est un fervent partisan des droits civiques et politiques, d'accord ? Donc c'est ça, fervent partisan des droits de l'homme, il s'est beaucoup engagé. Il s'appelle Alan Dershowitz, D-E-R-S-H-O-W-I-T-Z. Alors lui, il va plus loin parce qu'il dit, étant donné l'importance de la torture dans ce contexte, il faut aller plus loin et il faut autoriser des mandats judiciaires de torturer. C'est-à-dire qu'il faudrait admettre dans cette hypothèse que le juge puisse autoriser les autorités de police à torturer le terroriste de façon à obtenir les renseignements que l'on souhaite. Alors, vous voyez bien que cette hypothèse est élaborée dans un contexte tout à fait particulier, récusé par l'article 2 de la DUDH, hein, mais qui est le contexte de ce qu'on appelle l'état d'exception, d'accord ? Ou aussi, en droit pénal, l'état de nécessité, c'est-à-dire ce moment où, en quelque sorte, on n'a pas le choix, d'accord ? Pour éviter un plus grand mal, il faut commettre une infraction. C'est ça qu'on appelle l'état de nécessité en droit pénal. Et dans le contexte aussi de la torture dite préventive et non pas punitive. Alors, là où je voudrais vous mener, c'est vraiment à la frontière hein, de ce cas, c'est qu'on peut tout à fait imaginer de sortir du contexte strictement terroriste. On peut imaginer ce cas hors de l'hypothèse de la lutte antiterroriste. Et non seulement on peut l'imaginer, mais il s'est même produit. À Francfort, en 2003, un jeune garçon a été kidnappé. Il s'appelait Metzler. Il a été kidnappé, figurez-vous, par un étudiant en droit, d'accord ? Vraiment assez loin hein, de la lutte antiterroriste. Et on peut s'interroger sur la nécessité des études de droit, mais enfin, donc voilà, il kidnappe, et c'était le fils d'un banquier très riche, et donc l'étudiant en droit réclamait une forte rançon. L'étudiant est capturé par la police qui croit que l'enfant est encore vivant et qui veut absolument savoir où il se trouve, sachant que le kidnappeur ne veut pas le lui dire. Et la police a donc menacé le kidnappeur de le torturer de façon à pouvoir, alors de le torturer doucement, d'accord, mais enfin de le torturer quand même, de façon à obtenir les renseignements nécessaires. Finalement, il se trouve que dans cette affaire absolument tragique, l'enfant était déjà mort, mais ce qui est intéressant, c'est que cette affaire a mis la question vraiment sur la place publique. Est-ce qu'il est légitime de torturer dans une telle hypothèse ? Et qu'on n'était pas dans l'hypothèse exceptionnelle de la lutte antiterroriste, on était vraiment dans une hypothèse banale de kidnapping d'enfants. Donc débat très houleux, des juristes et des philosophes ont pris parti pour la torture à ce moment-là, d'autres se sont élevés contre. Mais ce qui est intéressant, c'est que cela a donné lieu à une procédure et que le policier a été suspendu de ses fonctions. Alors, comment sortir du dilemme de la bombe à retardement ? Comment sortir de ce dilemme qui, d'une certaine façon, je trouve, émousse nos consciences et finit par nous faire penser que, bah oui, finalement, la torture serait justifiable, d'accord ? Et ça serait un bien triste résultat que le 10 décembre 2008, pouvoir en arriver à dire cela. Alors, cet auteur dont je vous ai parlé, Monsieur Terestchenko, critique, à mon avis, à juste titre, ce dilemme, et je vais vous dire pourquoi, et puis je vais après présenter mes propres observations. Il dit que l'ennui de ce dilemme de la bombe à retardement, c'est que c'est un dilemme moral, bon, ça c'est sûr, qui est censé fournir une clé pour l'action politique, d'accord ? Ce dilemme moral est censé indiquer aux politiques la façon dont il faut réagir dans ce type de circonstances. Or, en réalité, il dit que ce cas repose sur une situation qui, du point de vue des faits, est hautement invraisemblable, voire absurde. Je m'explique. Il nous dit, et vous avez dû le voir dans les fameuses séries télévisées, que d'un côté, la logique de cette hypothèse, c'est qu'on est pris par le temps. D'accord ? La bombe va exploser dans 10 minutes. D'accord ? Et en même temps, on se propose de faire quoi ? De torturer la personne. Or, torturer quelqu'un, ça prend du temps. D'accord ? On ne torture pas quelqu'un en 5 minutes, bien entendu. Si on le torture en 5 minutes, on le tue, en général. Donc déjà, il y a une première contradiction entre le fait de dire c'est un cas qui n'est possible que si vraiment on est dans l'urgence, et d'un autre côté, de proposer une procédure qui est graduelle, qui prend du temps, etc. Et qui est réglementée. Hein. À Guantanamo, en Irak ou en Afghanistan, on a torturé selon des procédures réglementées. Il y avait des guides faits par les autorités pour la torture. Deuxième difficulté de l'hypothèse, c'est que, à la limite, c'est justifiable de torturer quelqu'un si on est sûr qu'il a ses renseignements. Mais en général, dans la plupart des cas qui nous sont présentés, on n'est jamais sûr qu'il a ses renseignements. Bon, c'est pour ça que le cas de Francfort est un cas limite vraiment intéressant, parce que là, on savait que le kidnappeur savait où était l'enfant. Troisième difficulté de l'hypothèse, la torture est inefficace. Pourquoi la torture est inefficace ? Car pour échapper à la torture, qu'est-ce que vous faites pour échapper à la torture ? Vous dites n'importe quoi, d'accord ? Vous inventez quelque chose. Et éventuellement même, vous mettez les autorités de police sur une fausse piste, d'accord ? Comme on peut le voir, par exemple, dans le dernier Batman. Vous avez sans doute vu, d'accord ? Je ne suis pas la seule dans cette salle à avoir vu le dernier Batman, j'imagine. Et on voit très bien torturer le coupable, à un moment donné, dit n'importe quoi, d'accord, et il envoie l'autorité de police au même endroit, et la catastrophe, bien entendu, se produit. Cet auteur, donc, dit qu'on ne peut pas justifier une politique criminelle d'État qui marchande avec les valeurs essentielles de la démocratie sur une hypothèse aussi fragile. Alors, qu'en est-il si l'hypothèse n'est pas aussi fragile et si elle était sortie du contexte de la lutte antiterroriste ? C'est la question que tout le monde se pose et que je vous pose, à laquelle moi j'apporte donc les deux éléments de réponse suivants et sur lesquels j'ouvrirai la discussion si vous le voulez. Je pense qu'on ne doit pas même si aujourd'hui les esprits s'y sont lentement habitués, fonder une politique d'une démocratie sur la crainte. D'accord ? C'est très important, bien entendu, de prévenir la commission d'infraction. Une politique de droit pénal, elle doit non seulement réprimer ce qui a déjà été commis, mais éviter que des crimes ou des délits se produisent. C'est bien entendu l'idéal de toute politique pénale. Mais la recherche systématique, généralisée et sans condition de la prévention n'est pas justifiée. D'accord ? Et on pourrait aujourd'hui multiplier les dérives de ce que j'appelle la justice préventive, qui finalement aboutissent à habituer nos esprits à l'idée que certains procédés, comme par exemple la torture, s'ils sont appliqués dans le contexte d'une justice préventive, eh bien, ma foi, ils peuvent être admissibles. D'accord ? À quoi je fais allusion quand je parle de justice préventive ? Je fais allusion à beaucoup de choses. Toute notre justice aujourd'hui est en train de tourner d'un modèle répressif et rétributif, si vous voulez, tourner vers le passé, réprimer des infractions qui ont été commises, à ce modèle préventif qui est prévenir les infractions. C'est le cas, par exemple, des fichiers d'empreintes. Vous avez tous entendu parler des fichiers des empreintes génétiques. Alors c'est très utile, ça peut très bien marcher, ça peut être très efficace, etc. Mais la question quand même se pose de savoir s'il faut ficher tout le monde, d'accord, et combien de temps il faut garder ses empreintes. Pour votre gouverne, l'Angleterre vient d'être condamnée la semaine dernière par la Cour européenne des droits de l'homme parce que le système anglais permettait la conservation indéfinie des empreintes. Et pourquoi ? Précisément sur cette idée que conserver les empreintes, ça permet une politique de prévention des crimes, parce que si vous arrivez... Enfin, politique de prévention des crimes futurs, pas des crimes anciens, hein, d'accord ? Conserver les empreintes, ça n'a jamais empêché les crimes anciens d'avoir été commis, bien entendu. Deuxième signe absolument manifeste de cette montée en puissance de la prévention avec ses dangers, c'est le concept de dangerosité. Aujourd'hui, on a habitué nos esprits à dire que les individus simplement dangereux doivent être traités comme des criminels. Et je pense que la justification de la torture va dans le sens de cette idée selon laquelle la justice doit être davantage tournée vers l'avenir que tournée vers le passé. En tout état de cause, pour moi, la façon de sortir du dilemme de la bombe à retardement, c'est de dire que la torture ne devrait jamais être institutionnalisée, sous quelque forme que ce soit. En ce sens, il faut continuer à maintenir un très haut niveau d'exigence de son interdiction en tout temps, en tout lieu et dans quelque situation que ce soit. À mon sens, il n'y a rien à toucher à la DUDH de ce point de vue-là, d'accord ? Ni à la Déclaration universelle des droits de l'homme, ni aux textes qui ont suivi, notamment la Convention pour la torture. Il n'y a pas, à mon avis, à supprimer l'article que je vous ai cité, qui nous dit qu'aucune circonstance exceptionnelle ne peut permettre de justifier la torture. Autre chose est de dire que dans une situation donnée qui s'est déjà produite, un juge pourrait être amené à mettre en balance, d'un côté, le droit à la dignité qui a été bafoué quand on a torturé quelqu'un, d'accord ? Et d'un autre côté, le droit à la vie de quelqu'un d'autre. Pour reprendre l'exemple que je vous ai donné, d'un côté, le droit à la dignité du kidnappeur, qui, bien qu'il ait kidnappé, ne doit pas être torturé, de l'autre côté, le droit à la vie de l'enfant, d'accord ? Il est possible, en effet, qu'un juge soit amené à mettre en balance ces deux droits, et il est possible qu'il estime qu'au fond, c'est le droit à la vie de l'enfant qui doit prévaloir, et donc que finalement la torture était admissible. Mais cela ne remet aucunement en cause la nécessité de ne pas habituer nos esprits à la version dite libérale de la torture. Ce serait, à mon sens, une véritable régression, et il me semble que la DUDH, qu'on célèbre aujourd'hui, mérite un hommage plus intransigeant. Je vous remercie.